RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Une fois n'est pas coutume, j'aurais commencé cette émission avec une citation. Elle nous vient de Victor Hugo et elle a été choisie pour être le leitmotiv de la nuit de la lecture qui se tient cette fin de semaine un peu partout en France. « Aimons-nous encore, aimons-nous toujours », écrivait le grand Victor Hugo. Une nouvelle édition des Nuits de la Lecture, donc, pour partager amour des livres et faire entendre des livres sur l'amour. Dans de nombreuses villes, les bibliothèques, les médiathèques vont rester ouvertes tard le soir, ce vendredi et surtout ce samedi, pour des manifestations où l'on pourra écouter des pages exaltées de romans d'amour, des extraits puissants d'essais sur le sentiment amoureux et peut-être même des passages croustillants des grandes heures de la littérature érotique. L'amour, toujours, mais on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Et à l'heure du repli sur soi et des confinements spontanés, saluons ces initiatives qui nous poussent à sortir de chez nous et qui, le temps d'un week-end, transforment nos bibliothèques en un lieu un peu moins calme, mais où le livre rayonne tout autant. Et plaidons pour que ces ouvertures tardives soient plus fréquentes pour permettre à tous ceux qui n'ont pas chez eux les conditions pour y puissent étudier, et bien qu'ils puissent en bénéficier.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Et ils sont trois cette semaine à participer à cette émission, une émission enregistrée un peu plus tôt dans la semaine que d'habitude, ce qui expliquera peut-être par-ci par-là un certain décalage. Alors les jours qui viennent, eh bien nous le dirons. Alors à mes côtés, il y a David Groison, rédacteur en chef du magazine Phosphore, le monsieur ado chez Bayard. Aujourd'hui, dans votre sac ado, pas mal, hein ? Bonjour David.
Bonjour.
Deux belles rencontres, l'humoriste Vincent Dedienne et une jeune femme bouleversante, Marine Barnerias, pour son film Rosie. C'est bien ça ?
C'est ça.
Stéphane Covio est le responsable de l'association Venez et Voyez, une association qui propose conférences, visites de musées et voyages. Lui, dans son panier, bonjour d'abord.
Bonjour.
Eh bien, lui, vous, dans votre panier, vous proposez deux belles expositions. Julie Manet au musée Marmottan et Peindre en plein air à la fondation Custodia. Vous nous parlerez de ces deux expositions et vous nous direz ce que c'est que cette fondation, mystérieuse fondation Custodia. Enfin, depuis Lyon, Ingrid Blanchard est avec nous ces derniers jours. Elle a regardé sur Arte la série Nona et ses filles et dansé sur le dernier album de Juliette Armanet, Brûler le feu.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Alors on dort. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier.
Vous n'avez pu y échapper, le chanteur belge Stromae est de retour sur le devant de la scène. Son prochain album Multitude est attendu pour le 4 mars prochain. Il est à l'affiche de tous les festivals de cet été, mais en attendant les beaux jours, eh bien, il fait la une au cœur de l'hiver. C'était au début de la semaine dernière, il était l'invité du 20h de TF1, une interview enregistrée qui s'est terminée par une séquence qui n'a pas fini de faire parler d'elle. À une question de la journaliste Anne-Laure Coudray sur le mal-être du chanteur, eh bien, celui-ci a répondu en interprétant une chanson inédite, écoutée depuis des millions de fois sur les plateformes. Son titre, L'Enfer, on en reparlera évidemment. C'est la deuxième chanson du prochain album de l'auteur de Papa Outhet, qui a ainsi été dévoilée. En octobre dernier, Stromae présentait un premier titre, Santé, pour célébrer ceux qui ne célèbrent pas.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
Stromae, un artiste qui sait capter l'air du temps. Nous reparlons évidemment de ce nouveau titre qu'on écoutera tout à l'heure. Mais d'abord, David Groison, je voudrais que vous nous rappeliez pourquoi Stromae est un artiste qui compte aujourd'hui. C'est une question arithmétique, hein. Énormément d'albums vendus, mais pas seulement.
Alors c'est marrant parce que cette chanson-là, La Santé, elle faisait partie des 10 chansons les plus écoutées à minuit au moment du passage à la bonne année. Les plateformes musicales, Deezer, Spotify, on voit ça aux journalistes, qu'est-ce que les gens écoutaient pour passer le cap du nouvel an. Et donc il y avait cette chanson, donc il y a à la fois les disques, il y a aussi les écoutes. Bah, Stromae, il y a dans les deux titres qu'on vient d'entendre, en fait, tout le cocktail de son succès, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce mélange musical, il y a du hip-hop, il y a de l'électro, il y a de la chanson, donc on voit que d'un coup il peut se balader dans plein d'univers musicaux, très très différents, et puis il a une voix qui le met en héritage d'une chanson française. Il y a quelque chose de Brel dans sa voix qui est très chaude et qui lui permet de très bien chanter. Et puis il y a cette schizophrénie à chaque fois entre des musiques extrêmement joyeuses, dansantes. Alors on danse, on a dansé sur Alors on danse, et puis des paroles qui sont par contre là extrêmement noires, extrêmement sombres, santé sur effectivement sur les gens qui ont pas la possibilité de faire la fête, mais avant ça papa outé sur l'absence du père. Il a des origines, son père était rwandais. Il est belge, mais son père était rwandais et son père a été tué pendant le génocide des Tutsis, pendant la guerre du Rwanda. Il l'avait même très peu connu avant. Donc cette chanson, elle est grave. Alors on danse, c'est effectivement les quelques strophes qu'on a entendues, c'est effectivement de se dire le monde est en train de s'écrouler. On a des vies d'idiots à travailler pour suffisamment d'avoir d'argent pour avoir la voiture qui nous permet d'aller au travail. Donc il y a quelque chose d'extrêmement triste, désespéré dans ses paroles. Donc il y a toute cette alchimie là. Et puis la chanson qui a été dévoilée.
On en reparlera un peu plus tard.
On en reparlera après.
Peut-être aussi parler de l'univers de Stromae. C'est des clips qui sont toujours extrêmement bien travaillés.
Alors c'est des clips extrêmement très bien travaillés. C'est aussi un homme de coup. C'est-à-dire que d'un coup la chanson formidable. Quand elle est sortie, c'était en mode caméra cachée sur YouTube, où on le voyait ivre dans les rues de Bruxelles. Et pendant quelques jours, on savait pas si effectivement il était vraiment ivre dans les rues, en proie à ce malaise, en train d'importuner les passants. Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'est une fiction? Donc il y a cette façon de nous attraper avec des codes très différents. Le look de Stromae, il a créé depuis d'ailleurs sa marque de vêtements, a aussi beaucoup fait parler, avec une élégance et une fantaisie assez forte. Et puis il y a dans l'univers de Stromae, on peut pas passer à côté aussi de son histoire personnelle, c'est-à-dire que d'un coup, ça a été une immense star qui a tourné dans 25 pays, qui a vendu, comme vous le disiez, des millions de disques, etc., et qui a fait un burn-out, qui s'est arrêté et dont on a pensé qu'on le reverrait plus sur scène et qu'on n'entendrait plus de chansons de Stromae. Mmh. On a entendu pendant 5-6 ans, de temps en temps, une collaboration avec Aurel San, un rappeur, avec d'autres artistes par-ci par-là. Mais on pensait qu'au fond, c'était fini.
Et non, on écoute un extrait de Papa Outé et après on vous donne la parole, Ingrid.
Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous.
nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui, tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, et ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey, où t'es, papa, où t'es?
Je sais qu'il y a Ingrid qui patiente, mais David Groisson, quand même, un mot encore sur la relation aux jeunes. Cette chanson, elle a parlé très fortement dans le cœur de nombreux jeunes gens, de nombreux adolescents dont les parents sont séparés, qui sont très éloignés de leur père. Elle a touché juste.
Oui, elle a touché juste. Son père, effectivement, était au Rwanda. Il le voyait pas beaucoup. Il dit, en fait, avant, on l'a appris qu'il était mort par téléphone. Et en fait, il l'avait vu une vingtaine de fois avant. C'était un coureur, etc. C'était à la fois la douleur que ça raconte, et puis ce truc papa outé, écrit en un seul mot, avec ce petit gimmick qu'on a fait un truc de cours de récré, un truc extrêmement aussi ludique, un peu lumineux. Et c'est cette alliance en permanence entre des choses sombres et lumineuses, inclus dans ces mêmes 3-4 minutes, qui en font effectivement des succès auprès des adolescents.
On sait comment on fait les bébés, on sait pas comment on fait les papas. Ça parle aussi à l'histoire de la masculinité aujourd'hui. Ingrid, alors vous, ce qui vous intéresse, c'est comment il fabrique ses coups, hein. C'est ce que vient de nous dire David, hein. C'est un homme de coups quand même. Stromae.
Oui, bah comme beaucoup d'artistes aujourd'hui, je crois que le phénomène Stromae dont on entend parler depuis quelques semaines met bien en lumière la façon dont les artistes et leurs producteurs, et pas seulement d'ailleurs les chanteurs, scénarisent aujourd'hui le succès et la sortie de leurs albums ou de leurs livres. Alors les exemples de ces dernières semaines ne manquent pas. On l'a vu avec notamment Aurel San, qui pour la sortie de son nouvel album avait caché dans les albums commercialisés des tickets d'or qui donnent accès à tous ses concerts à vie, ou encore Houellebecq qui disait quelques jours avant le lancement de son nouveau roman qu'il ne donnerait aucun interview pour sa sortie, le roman dont tout le monde parlait avant même qu'il soit sorti.
On en parlera la semaine prochaine.
Cette tendance à la scénarisation, on voit bien qu'elle fait vendre, hein. Elle est partout, elle fait vendre. Stromae a vendu en moins de 20 minutes 60 000 places des 3 premières dates de sa tournée. Houellebecq est en tête des ventes de livres. En fait, ce qui me gêne finalement, c'est de voir qu'on parle plus de ses tours de force marketing que de la production artistique ou littéraire de ses personnalités, comme si c'était des meilleurs arguments de vente finalement. Mais pour autant, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit David, et je crois que ce que révèle le succès de Stromae comme Aurel San par exemple, c'est vraiment le succès de la musique urbaine aujourd'hui, hein, qui fait partie des, qui est la musique, hein, la plus écoutée je crois en France aujourd'hui. Et puis peut-être la particularité aussi de ces deux artistes en l'occurrence, c'est de raconter la société et le monde d'aujourd'hui en introduisant des pans de leur vie, ce qui les rend assez touchants et assez loin finalement des icônes lisses et assez impénétrables et inaccessibles. Quand Stromae parle, je crois qu'on l'évoquera ensuite, mais parle de sa dépression et de ses envies suicidaires, il se montre assez vulnérable. Moi personnellement, ça m'a touchée. Alors, j'ai éprouvé un léger malaise, hein, en regardant l'intervention en plein JT, mais je pense que sur le fond, si ça peut libérer une certaine parole sur les maladies mentales, aider des jeunes à en parler, c'est sûrement une bonne chose. Et je crois que d'ailleurs sa performance a été saluée par
le directeur
général de l'OMS. Voilà, exactement. Donc ça, je pense que c'est bien. Et peut-être un tout dernier point. Je connais la musique de Stromae parce qu'elle est très commerciale, qu'on l'entend beaucoup sur la radio. Mais tout à l'heure, vous évoquiez les clips de Stromae que j'ai du coup regardé vraiment avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'enthousiasme. Je trouve qu'il y a vraiment une inventivité et une énorme créativité. Donc voilà, au-delà des coûts marketing, ça n'en reste pas moins, je pense, un grand artiste.
Stéphane, avant de parler de la chanson sur Stromae, hein, de façon générale, vous avez vu les clips, vous aussi ?
J'ai vu les derniers clips.
Ouais.
J'adore. Enfin, je suis impressionné. Et pas seulement par ce que l'on voit, et bien entendu par ce que l'on entend. Pas uniquement la musique, les paroles, les mots, tout, l'image. Il y a une association des trois ensemble, ouais. C'est phénoménal. Tout à l'heure, en réentendant les paroles de Papa Outé, je me disais, mais quel plasticien du langage. C'est impressionnant, son choix des mots, son phrase, et puis la manière de les dire. Il a une diction hors du commun. Et sa diction, ses mots, sa musique est là dans les clips, l'image, c'est très impressionnant de les voir ensemble. Et en plus, c'est d'une précision du début jusqu'à la fin. J'ai regardé plusieurs fois d'affilée avec passion le clip L'Enfer. Il y a un seul mouvement de caméra. Ça commence par un gros plan sur un œil fermé. La musique démarre. C'est des vocalises plus ou moins méditerranéennes, je ne sais pas très bien. Le piano intervient, l'œil s'ouvre avec le piano. Le visage commence à bouger très très légèrement. Ou alors c'est la caméra qui bouge, je ne sais plus très bien. Et puis après la caméra se recule, ne cesse de se reculer jusqu'à la fin. Et en fait, à la fin, on voit un personnage seul dans un immense espace. Ça commence par la solitude, ça se termine par la solitude. Et en fait, ce n'est pas terminé parce que ça se termine véritablement par l'œil où le personnage, en fait, avec le recul, on se rend compte que tout ça se passe dans l'œil qu'on a vu au début. Donc, on revient au départ et on a vraiment l'impression d'une solitude à l'intérieur de la personne, parce qu'à l'intérieur de l'œil, il y a un jeu, il y a, comment dire, un chromatisme simple, extrêmement élégant et totalement abouti, une gestuelle du personnage parfaite, extrêmement sobre, parfois rien du tout. Et puis, à un moment donné, ça se déclenche et il y a quelques mouvements du corps, quelques mouvements de la main et du visage hyper expressifs au moment où la musique devient une sorte de crécelle où on sent que le mal l'attaque, où ça se passe pas très bien à l'intérieur. Et hop, ça revient tout de suite après à du calme. C'est épuré, c'est d'une efficacité. Enfin, je trouve ça plastiquement parfait.
Voilà. Bien, maintenant qu'on a vu la musique, on va l'écouter.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.
Voilà, L'Enfer, dernier titre, dernier tube de Stromae. David, un mot sur cette chanson qui évoque la question du suicide.
Oui, alors forcément, vu de vous me présentiez comme spécialiste des ados de Bayard, mais c'est vrai que chaque parent qui nous écoute là est glacé, tant le suicide fait peur. C'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, juste après les accidents de la route. Et je crois que, comme vous le disiez, Stéphane, il y a quelque chose dans les mots qui est très fort quand il dit « on croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire », c'est exactement dit avec une immense simplicité. La mécanique qui fait penser à des adolescents et des jeunes adultes qui vont mal, qui ont qui sont en dépression, qui ont des pensées suicidaires, que le seul moyen de les faire taire, ça serait de mourir. C'est glaçant. Et tout ça est dit avec beaucoup de force. Et effectivement, l'avoir fait dans un journal télévisé, c'est d'un coup un impact considérable, plus de 7 millions de téléspectateurs. Moi, J'ai des ados à la maison. Je regarde pas la télé. Et quand j'ai compris ce truc-là, on s'est remis pour regarder le replay en famille. Parce que je me disais que c'est un moment qu'il faut vivre avec ses enfants. Donc le dimanche à 21h, on l'a re-regardé et on avait les poils qui se hérissaient sur les bras.
Mais vous, comme journaliste, vous n'êtes pas gêné ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Et je trouve, moi, l'impact que ça a de pouvoir parler de la santé mentale, il y a beaucoup, ce qui est réjouissant, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes de cette jeune génération qui parlent de santé mentale. On parlait tout à l'heure d'Orelsan qui, avec Soprano, a fait une chanson Jour meilleur, où il parlait de la dépression en disant on soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Il y a L'Homme Pâle qui avait fait un autre rappeur qui avait fait tout un album qui s'appelait Janine, où il parlait de sa grand-mère qui avait des troubles psychiatriques, qui était traitée de folle, etc. Et du coup, cette possibilité d'archétype du succès, d'une forme de réussite, etc., qui puissent dire leur fragilité, et de pouvoir dire qu'on a le droit d'en parler et que ça fait du bien d'en parler, c'est bienvenu. Je crois que ça, c'est un moment important, ouais.
Voilà. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez voir. Moi, je vous conseille peut-être même de voir le clip,
qui
est plus beau, que nous a décrypté Stéphane. Donc, L'Enfer de Stromae, qu'on voit sur un peu partout sur Internet. L'album est prévu pour début mars.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Une militante féministe qui a élevé seule ses triplés et qui se retrouve enceinte à l'âge de 70 ans, c'est le pitch tout à fait improbable d'une des dernières séries d'Arte. Ça s'appelle Nona et ses filles. C'est signé Valérie Donzelli. On écoute la bande-annonce.
Je m'appelle Elisabeth Perrier, mais tout le monde dit Nona. Je suis féministe. J'ai toujours milité pour les femmes, leur liberté, leur combat. À 27 ans, j'ai eu des triplés. Je travaille toujours au planning familial de mon quartier. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Et c'est vraiment une catastrophe.
Vous savez pas ce qu'est la contraception ?
Bah non, non.
C'est la merde.
Vous venez de quelle planète ?
Maman est enceinte.
Quoi ?
J'ai toujours été ton maman, et ben je resterai ton amant.
Bon, écoute, c'est toi la psy.
Arrête avec ça, je suis pas psy, je suis sexologue.
Bah, écoute, moi, j'ai la dose pour aujourd'hui. Hein. Gabriel, ça, c'est toi qui t'en occupe.
1, 2, 3.
La prochaine fois, je distribue.
J'ai un super jeu.
Comme d'habitude.
En fait, je viens de croiser une bombe.
C'est sa femme de maman.
Il est hyper cul. Vous savez quoi, les filles ? On va s'installer ici, avec elle.
Et hop, tout le monde rue Poulet.
Ingrid, Nona et ses filles, c'est une comédie ou c'est un peu plus sérieux ?
Ah, c'est un petit peu des deux, mais c'est très drôle et c'est très enthousiasmant. Alors, pour ceux qui connaissent pas Valérie Donzelli, Stéphanie, si je peux en dire peut-être deux mots,
allez-y.
Elle est à la fois réalisatrice, elle est actrice aussi, et elle joue d'ailleurs dans cette série. Les auditeurs la connaissent probablement à travers ses longs métrages, La guerre est déclarée, Main dans la main ou Notre-Dame récemment. Elle signe ici sa première série et probablement sa comédie la plus aboutie. Je suis pas une grande consommatrice de séries, mais celle-ci, je dois dire qu'elle a vraiment un charme fou. C'est à la fois drôle et émouvant, c'est plein de tendresse. On est entre la fable familiale, le conte fantastique, un peu surréaliste, la comédie burlesque, enfin tous les univers qui font l'univers de Valérie Donzelli. Il y a un petit peu ce côté lunaire et pétillant qu'on retrouve dans ses films. Je dois dire que c'est vraiment une comédie qui fait du bien. Peut-être préciser que c'est pas une série à rebondissement, c'est vraiment une série de personnages. Et j'aimerais saluer le jeu des trois actrices qui jouent les triplés, les trois femmes quadra triplées de Miu Miu qui incarne Nona, donc cette femme de 70 ans qui attend un bébé, donc une situation totalement inattendue. Et ces trois femmes, donc Virginie Ledoyen, elle incarne Manu, qui est une mère de famille de 5 enfants, qui mène une vie assez rangée et qui s'est construite en totale opposition à sa mère. Clotilde M, qui joue Gabi, une sexologue dévoreuse d'hommes un peu révoltée. Et Valérie Donzelli joue Georges, encore chez sa mère, qui tente de terminer sa thèse. Alors vous voyez qu'elles ont toutes les trois des prénoms qui sont délibérants délibérément mixte, choisi par une femme qui a grandi vraiment et qui a vécu les années 60-70. Et puis il y a ce petit... Donc c'est vraiment voilà, des personnages extrêmement attachants. On a presque envie de faire partie de la famille. Et ce qui participe aussi de ce côté très familial et très chaleureux, c'est le cadre, la mise en scène, puisqu'on se sent vraiment chez soi quand on regarde cette série. Il y a une forme de théâtralité due au huis clos, car une grande partie de l'intrigue finalement se passe dans l'appartement de Nona, qui est une sorte de refuge, un petit peu cet appartement des années 70-80 avec ses objets en rotin, ses tapisseries à fleurs, comme si on se retrouvait un petit peu soi-même chez soi. Et en même temps, les personnages sont vraiment ancrés dans notre époque. Ça en fait un peu une série hors du temps. Et puis, vous le disiez, Stéphanie, c'est une série qui est drôle, émouvante, mais qui traite aussi de sujets qui sont forts, comme la transmission, la maternité, le combat des femmes pour le droit à disposer de leur corps. C'est vraiment une comédie qui est pleine de fantaisie, qui mêle l'intime et le social, les sciences et le surnaturel aussi, parce qu'en fait, Nona, qui a 70 ans, bon déjà, le fait d'être enceinte à cet âge-là est assez inattendu, mais en plus de ça, elle se défend de toute aventure, alors que le test ADN révèle que son compagnon du moment n'est pas le père. Donc, il y a un petit peu un côté fantastique et extravagant dans cette série, qui en fait vraiment un objet totalement à part. Et puis, même si Valérie Donzelli est un peu de tous les fronts, parce qu'elle a fait la mise en scène, elle a réalisé et elle joue également dans cette série. On peut aussi saluer le travail de Clémence Madeleine Perdria, qui est co-scénariste de cette série et qui travaille actuellement sur l'écriture de la saison 2 de En Thérapie, qui est une autre super série d'Arte. Et ça me permet de souligner vraiment ce travail que fait Arte sur les séries, qui sont assez originales dans le paysage des séries d'ailleurs.
Alors Nona et ses filles, c'est 9 épisodes, ils font chacun une grosse vingtaine de minutes. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne sont plus disponibles sur Arte. Ils sont restés très peu de temps. Donc, on peut les obtenir en VOD sur le site d'Arte ou même de Canal Play. Alors, c'est la figure de l'impressionnisme de ce début 2022. Le musée Marmottan, temple de l'impressionnisme à Paris, consacre son exposition de rentrée à Julie Manet. Stéphane, vous étiez dans les premiers à arpenter cette exposition. Qui est Julie Manet ?
Alors, j'étais dans les premiers à l'automne.
Oui.
C'est une exposition qui est à cheval sur l'automne et la fin de l'hiver. Hein. Julie Manet, c'est la fille de Berthe Morisot. Berthe Morisot, qui est une peintre et qui avait épousé la sœur d'Édouard Manet, Eugène Manet. Vous voyez, il faut s'y retrouver, c'est pas si simple. Manet, Eugène Manet,
et
le grand Manet.
Très proche quand même d'Édouard Manet.
Très proche de son oncle, Édouard Manet. En fait, Berthe Morisot était très amie, très très proche, très liée à Édouard Manet. Elle a épousé son frère. Alors, Édouard Manet est mort jeune, il meurt en 1883. Julie Manet, la fille de Berthe et d'Eugène, est née en 78. Donc, la petite avait 5 ans quand son oncle est décédé. Ceci dit, elle a beaucoup entendu parler de lui et elle a beaucoup vu les tableaux de son oncle qu'elle avait à la maison et dont elle a hérité. Elle-même va peindre par la suite, mais en fait, si on parle d'elle aujourd'hui, s'il y a une exposition à son sujet, c'est surtout pour le rôle qu'elle a eu dans... Enfin, c'est pour plus d'autres choses, en fait. Le rôle qu'elle a eu dans la promotion du travail de sa mère et du travail de son oncle. Vous savez que les artistes, en général, doivent beaucoup à leurs héritiers, qui vont avoir comme souci de faire en sorte que les œuvres de leurs proches figurent dans des grands musées, soit présentée, soit montrée, qu'on en parle, etc. Et elle va beaucoup travailler au profit de sa mère et aussi au profit de son oncle, qui malgré tout en avait aussi un peu besoin, même s'il était beaucoup plus célèbre que sa mère Berthe.
Comment est faite l'exposition ?
Alors l'exposition est en plusieurs parties.
Vous avez dit d'abord plusieurs raisons.
Oui, plusieurs raisons. Ah oui, il y a plusieurs raisons.
Alors l'héritage,
plusieurs raisons, plusieurs parties.
Voilà.
Elle-même a été peintre. Alors, c'est la moindre des raisons d'aller voir l'exposition. Il y a une salle où il y a un certain nombre d'œuvres d'elle.
Bon, ça, c'est pas très...
C'est une peintre du dimanche. bon, mais c'est quand même amusant et intéressant. Il y a des éléments biographiques qui concernent ça.
Bon, elle est sûrement meilleure peintre que je ne le suis.
Elle a été collectionneuse aussi. Et elle a épousé un collectionneur. Elle a épousé le fils d'Henri Rouard. Henri Rouard, c'était un polytechnicien qui avait fait fortune. Il est l'inventeur du pneumatique. Vous savez, les réseaux d'air comprimé dans Paris avec voilà, la manière d'envoyer les messages comme ça. Et Henri Rouard était un ami de Degas, un ami de lycée. Il a été un grand collectionneur. Il a eu plusieurs enfants, dont un qui s'appelle Ernest Rouard, qui a été peintre, qui a été élève de Degas. Et ce Henri Rouard donc, a épousé Julie Manet. Et là-dedans, il y a plein d'histoires de relations entre les amis, les cousins, etc. C'est absolument passionnant. Comme je dis, il y a Degas est proche d'eux, Renoir va être proche d'eux, parce que Berthe Morisot va mourir très tôt. De ce fait, le tuteur de Julie Manet, c'est Mallarmé, le poète. On est en plein univers de la littérature contemporaine, de la peinture contemporaine de l'époque. Elle est collectionneuse. Pourquoi ? Parce que son mari est collectionneur. Alors, ce sont des familles très aisées. Hein. Vous avez compris qu'il y a une fortune qui vient du côté de son époux Rouard. Et en fait, elle aussi a une fortune qui va lui venir de ses grands-parents Manet. Elle a les moyens, ils ont les moyens d'acheter. Ils vont même d'ailleurs racheter une partie de la collection du beau-père Henri Rouard. Tout ça est assez compliqué, mais l'exposition vous permet de mettre de l'ordre dans tout ce que je suis en train de vous dire là, à la suite. Ce qui fait que dans l'exposition, il y a beaucoup de tableaux de Berthe Morisot, naturellement. Il y a un certain nombre de tableaux de Édouard Manet, dont quelques-uns qui ont ma préférence. Je suis très sensible, personnellement, au portrait qu'Édouard Manet a fait de Berthe Morisot. Quand on voit ces tableaux, on sent qu'il y a véritablement une complicité entre les deux. Alors, Berthe Morisot est très jolie. Elle a un charme évident. Et on voit bien que Manet saisit ce charme, l'apprécie. Et on sent toute la complicité qui les unit. Vraiment des très belles choses. Il y a les tableaux de Manet. Et puis, il y a les tableaux collectionnés. Donc, il y a des Corot, il y a des tableaux d'autres peintres. Il y a des Puvis de Chavannes, il y a des Maurice Denis. Parce qu'il y a aussi un autre aspect de l'histoire du couple. C'est que par la suite, ils vont être très croyants, très investis dans leur foi. Et il y a notamment des œuvres de Maurice Denis. Maurice Denis, qui est un peintre par la suite du renouveau de la peinture chrétienne, etc. Il y a une très belle visitation de Maurice Denis. C'est pour vous dire, ça part dans toutes les directions, mais c'est assez bien structuré. Et l'expo vous permet de mettre de l'ordre là-dedans. Et de vous rendre compte qu'elle est à un carrefour. Au milieu de plein de choses. Et c'est passionnant. Elle a écrit son journal. Sa cousine a écrit son journal. Donc il y a une foule de renseignements là qui nous sont donnés de ce que c'est qu'à l'époque de vivre dans ce milieu-là.
Voilà. Pour découvrir Julie Manet et toutes ses histoires, eh bien, on va au musée Marmottan. L'exposition court jusqu'au 20 mars. Attention, pépite musicale maintenant dans Effervescence. On découvre Gabriels, un trio venu de Los Angeles, né en 2016. Porté par la voix bluffante de Jacob Lusk, un chanteur de gospel, directeur de chorale, qu'on a vu dans les chœurs d'artistes comme Diana Ross et Beck. On découvre cette voix exceptionnelle entre soul et gospel avec ce titre « Blame ».
Mornings turn to night and then the night becomes the day I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when a new can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Halls of rolling ice and waterfalls, I can't help but smile. Troubled fortunes lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while.
Alors vous faites comme David Groison, vous prenez un petit papier et vous notez. Il s'appelle Gabriels et le titre c'est Blame.
Effervescence. Quand la culture fait briller les yeux.
Merci d'écouter Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Notre émission hebdomadaire se poursuit, toujours en compagnie d'Ingrid Blanchard, de David Groison et de Stéphane Coviot. Le début d'année est des plus gris, c'est pas franchement la bonne humeur qui domine. Alors David, vous nous avez proposé de faire une rencontre survitaminée. Marine Barnerias, une jeune femme incroyable. Son film Rosie est sorti au début du mois, c'est un journal de voyage. Un voyage à l'autre bout du monde, un film tourné avec son téléphone portable. On écoute Marine Barnerias, c'est le début de la bande-annonce du film.
C'était en 2015. ma vue, elle commence à diminuer. Je rentre dans une phase de déni énorme. Je n'ai pas la maladie où il y a le plus de handicap en France. C'est pas possible. Sclérose en plaques.
Je peux perdre l'usage d'un bras, d'une jambe ou encore perdre la vue.
C'était fou.
Je suis partie sans traitement. Pas pour fuir la maladie, pas pour fuir la médecine. Je savais que mon corps me disait juste « pas maintenant ». Pas maintenant. J'avais envie de me retrouver, d'unir ce corps et cet esprit. Ça sera 9 mois de voyage.
On est au 2e jour. Allez,
là, je suis pas sereine.
Je suis pas du tout une aventurière. Mais j'avais un objectif. Ressentir.
Alors cette jeune femme, notez bien aussi, elle s'appelle Marine Barnerias. Le film, c'est Rosie. David, c'est qui Rosie?
Ah, faut pas le dire.
Faut pas le dire?
Non,
parce que
ça fait partie des moments de bascule du film. Parce que ce qu'on peut dire de Marine, bah, on l'entend là l'extrait de bande-annonce. C'est-à-dire que c'est une force en mouvement. C'est une jeune fille qui a tout. Elle a 20 ans, elle est belle, elle a un petit copain, elle a des parents aimants, une sœur aimante. Elle fait des chouettes études, elle est en école de commerce et on sent la battante école de commerce, etc. Et effectivement, un jour, elle dans une fête étudiante, d'un coup, elle a un voile noir qui passe devant les yeux, elle s'écroule et elle pense que c'est elle sait pas trop ce que c'est. Et puis effectivement, on lui diagnostique une sclérose en plaques. Et d'un coup, en mode un peu école de commerce, elle dit bah en fait, du coup, je fais un plan d'attaque, je vais faire un financement participatif, je vais partir à l'autre bout du monde pour alors même dans sa façon de choisir les pays, il y a un côté un peu hors sol quoi. On se dit ah bon, mais c'est fou. Elle dit la Nouvelle-Zélande parce qu'il y aura plus de moutons que d'habitants et d'un coup là je vais pouvoir être peinarde en Birmanie parce que je pourrais faire de la méditation et faire une cure de silence. Et puis le troisième pays, elle dit je vais aller en Mongolie parce que là je vais traverser l'immensité à cheval et je vais ressentir mon corps. Et donc elle a cette idée qu'elle veut rejoindre son corps, son esprit, son âme. Et puis, en fait, l'intuition s'avère juste. C'est-à-dire que c'est vraiment ce voyage-là. C'est pas un voyage à l'autre bout du monde, en fait. C'est un voyage à la rencontre d'elle-même. Et c'est pour ça que cette histoire, elle parle à chacun d'entre nous. C'est-à-dire comment on sait qui on est, vraiment. Comment on sait ce qui nous tient vraiment à cœur, de quoi on est constitué, de quel bois on est fait. Et elle documente tout ça avec son téléphone portable. Donc c'est une image qui bouge un peu, qui est très très amateur. Il y a cette musique qu'on entend de Mathieu Chédid,
ouais, voilà.
De M, avec ce petit sifflement qui est aussi un peu la petite voix intérieure de Marine à certains moments. Et tout ce chemin, elle est extrêmement authentique. C'est vraiment le film de cette nouvelle génération. Elle a 20 ans, elle se filme tout le temps au téléphone portable. Donc même quand elle fait une cure de silence, de méditation pendant 10 jours, elle ne doit plus dire un mot. Bah, elle se filme en train de pleurer, en train d'être à deux doigts de craquer. Elle est au moment où elle est sous la tente en Nouvelle-Zélande. Il y a le vent qui va arracher la tente, etc. On se dit, oh là là, mais effectivement, si c'était ma fille, ouais. 20 ans à l'autre bout du monde, sur une route paumée, etc. On est inquiet pour elle, etc. Mais du coup, voilà, on fait tout ce chemin avec elle. On pleure. Mais j'ai pleuré plein de fois. C'est-à-dire, il y a plein de moments où on pleure, etc. Et en même temps, on en sort avec une force de vie et de joie qui fait que c'est un film qui effectivement donne une patate d'enfer parce qu'elle a cette force communicative, parce que d'un coup elle nous oblige de nous recentrer sur l'essentiel. Et d'ailleurs, c'est un petit film qui n'avait pas beaucoup de chance, etc. Bah en fait, en deuxième semaine, il a plus de salles qu'en première. Et
Donc, en
troisième, etc. Il y a un bouche à oreille extraordinaire qui fait que voilà, si vous connaissez des gens qui l'ont vu, ils vont vous tanner en disant mais vas-y, va voir Rosie, parce que c'est un film qui effectivement donne envie de se partager.
Bah voilà, pour savoir qui est Rosie, bah une seule solution, allez voir Rosie, le film de Marine Barnerias au cinéma. Marine Barnerias, 27 ans, un film, et je crois qu'elle a aussi fait un livre. Hein. La jeune femme dont nous allons parler maintenant en a 10 de plus. Elle a aussi une sacrée dose d'énergie et de talent. Son dernier album est déjà disque d'or un mois et demi après sa sortie. Elle est nominée aux prochaines victoires de la musique dans trois catégories. Artiste féminine, chanson de l'année et album de l'année. Ingrid, vous voyez de qui je parle ?
Oui, bah évidemment, Juliette Armanet. Alors Juliette Armanet, en effet, c'est l'histoire d'un peu d'une success story. Elle sort là son deuxième album après son premier, donc Petit Ami, qui avait été vendu à 200 000 exemplaires et récompensé par une victoire de la musique en 2018. Alors est-ce qu'elle va renouveler la performance en février prochain ? On verra ça. Et on parlait de coups tout à l'heure. Elle a sorti bien avant la sortie de son album ce titre qu'on entend beaucoup en ce moment à la radio, Le dernier jour du disco. Peut-être qu'on en passe un petit morceau.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin.
Ingrid, pourquoi ça fonctionne ?
Ouais.
J'ai quelques idées.
Bon, alors on sent la chanson explosive, sensuelle, dans laquelle elle raconte la fin d'un amour et qui est un petit peu comme un sursaut vital, un peu incandescent comme ça, qui donne vraiment le ton solaire de ce nouvel album. Alors ce nouvel album, deuxième album, donc c'est toujours la tentation de la répétition, mais on sent bien que là, Juliette Armanet, elle tombe pas du tout dans cet écueil. Pour ceux qui ont écouté ses premières chansons, on est sur quelque chose de très différent entre le disco glamour scintillant et dansant et le piano-voix sobre, une sorte d'équilibre parfait entre le spectacle et l'émotion. On retrouve un petit peu les influences de variété auxquelles elle nous avait habitués, donc comme Michel Berger, Véronique Sanson, William Scheller. Et il y a beaucoup de Christophe dans cet album dont elle dit qu'il l'a beaucoup inspiré. On retrouve un petit peu cette élégance dans les paroles, la bizarrerie dans certains accords et le côté un peu kitsch mais jamais trop sucré. Et puis pour ceux qui voudront vraiment écouter tout l'album, il y a une chanson aussi qui s'appelle Boom Boom Baby qui n'est pas sans rappeler les introductions des musiques de Lenny Kravitz. Donc elle trouve comme ça un univers très très polyvalent, très très varié. Et puis dans cet album, on sent vraiment que cette femme s'est libérée un petit peu de quelque chose. Elle le dit beaucoup en interview. Elle dit que la scène lui a porté énormément. Et ça se sent, ça s'entend, ça se voit aussi énormément dans ses clips. On la sent beaucoup plus libre, beaucoup plus insolente. Alors elle a une toute petite quarantaine d'années, Juliette Armanet.
37
donc
ans.
Elle est peut-être 37 ans. 37 voilà. Donc elle est peut-être un tournant de sa vie de femme qui s'exprime vraiment dans ses chansons. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'énergie dans ses clips. Et puis il y a une nouveauté aussi dans cet album, c'est qu'en plus du piano, elle introduit des cordes qui étaient absentes de son précédent et qui donnent une forme d'émotion et de lyrisme. Peut-être juste pour terminer, Stéphanie. J'aimerais juste dire que c'est vraiment un album qui est travaillé avec des paroles vraiment ciselées et que le succès de Juliette Armanet est pas sans rappeler, je trouve, le succès d'une autre chanteuse à voix qui marche bien, qui marche très bien aussi, qui est nominée aux Victoires de la musique, qui est Clara Luciani. Voilà, je trouve qu'il y a un petit peu d'histoires parallèles entre ces deux chanteuses. Voilà, pour moi, c'est vraiment un superbe album qui donne une énergie forte. Folle. Voilà, on sort du Blue Monday voilà. Cette semaine. Ça fait du bien d'écouter ce genre de musique.
Voilà, vous reviendrez nous parler de Clara Luciani le mois prochain. On écoute un deuxième titre, c'est le deuxième titre de l'album, c'est Qu'importe.
défaite, sans foi dans nos têtes, par tous les temps, les vents, tous les cerfs-volants, envoyés, envolés, laissés l'arracher obstinément. T'avais aimé mon image, mage, la pluie sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, scellés dans l'or pur, tu m'as blessé, lassé. Accroché, accroché, tu m'as aimé. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout.
Qu'importe, extrait de l'album Brûler le feu de Juliette Armanet, le coup de cœur d'Ingrid, et vous avez compris, c'est un peu plus qu'un album de midinette.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Et on parle trop peu dans cette émission Effervescence des spectacles d'humour, des one-man shows qui pourtant drainent beaucoup, beaucoup de public. Heureusement, David Groison est là. Alors vous avez été au Bouffe du Nord voir Vincent de Dienne pour son spectacle Un soir de gala. Présentez-nous l'animal. Qui est Vincent de Dienne ?
Alors Vincent de Dienne, bah, c'est effectivement un jeune comédien qui a fait un premier one-man show très autobiographique, où comme beaucoup de one-man show, hein, où il racontait sa vie d'enfant adopté à Mâcon. Et puis il dit la mauvaise nouvelle, la punchline c'était dans cette phrase, c'est la mauvaise nouvelle, c'est pas adopté, c'est Mâcon. Moi j'ai de la famille à Mâcon que j'embrasse.
Aussi, voilà, j'ai pas de famille à Mâcon, mais j'ai beaucoup d'amis là-bas.
Mais du coup, c'est voilà, ça vous dit le personnage. Et là, du coup, qui était un grand admirateur aussi de Muriel Robin. Et ça se sent beaucoup, c'est-à-dire que c'est un spectacle à l'ancienne où il campe des personnages. Ce qu'on voit plus beaucoup dans les spectacles d'humour, où effectivement l'idée est plutôt de raconter et d'enchaîner les vannes avec beaucoup de style et d'à propos. Là, il y a vraiment des personnages. Il y a une bourgeoise snob prétentieuse qui s'épanche auprès de sa femme de ménage en disant je m'emmerde tellement que je suis à deux doigts de vous aider. Il y a une agente de voyage qui vit un moment incroyable parce que d'un coup vient de se présenter devant son guichet Xavier Dupont de Ligonnès, et d'un coup c'est le meilleur moment de sa vie. Il y a un redresseur de chansons en mode très paramilitaire qui dénonce toutes les fautes de français dans les chansons, et puis les structures parallèles qui collent pas dans le etc. Donc on rigole beaucoup. Et puis il y a beaucoup de il y a une question en filigrane dans ce spectacle, c'est qu'est-ce qui fait qu'on saute plus des rochers à partir d'un certain âge, quand on est au bord de la mer, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à partir d'un moment on saute plus des rochers? Et il dit, bah voilà, à 20 ans, on saute parce qu'on a envie de vivre.
C'est terrible, comme question.
Et à 50 ans, on hésite parce qu'on a peur de mourir. Et il y a toute cette idée, cette mélancolie, ce chagrin. Il invente un mot, la chagreur, en disant ce mélange de chagrin et d'aigreur qui fait que quand on vieillit, on peut être dévoré par la chagreur. Donc il y a quelque chose d'assez fin, d'assez doux, d'assez mélancolique. Et au fond, cette forme un peu nostalgique, elle imprègne aussi les textes et le propos de Vincent de Dienne, parce qu'on en ressort effectivement. Moi j'ai grandi avec Muriel Robin, Pierre Palmade, et effectivement on est presque renvoyé en arrière à des spectacles tels qu'on en faisait il y a 20 ans, il y a 30 ans.
Oui.
Et ouais, oh, ça va. Et quand même, en fait, on se sent bien, c'est-à-dire il y a une forme de cocon, de retrouver des personnages un peu. Il y a un vieux qui court les enterrements de personnalités, qui a tout un album photo qui passe sa vie à aller dans les enterrements de personnalités, ou un journaliste d'une radio concurrente, forcément, un journaliste d'une radio complètement inculte, infecte, avec tout le monde, qui raconte plein de choses sur le monde médiatique. C'est très joli.
C'est très joli, plus que très drôle.
Et c'est très drôle. C'est non, on rit beaucoup, mais on en ressort aussi avec une forme de poésie. Et d'ailleurs, le spectacle se termine. Ça, je sais pas si je peux le dire, mais se termine où d'un coup, dans une chorégraphie très très belle de 7-8 minutes, où il reprend des gestes de tous les personnages qu'on vient de voir, et on revoit devant nous tous ces personnages imaginaires qui vient d'incarner. On les revoit avec un geste de la main, un geste du pouce, etc. Il fait que d'un coup, ils réapparaissent devant nos yeux. Donc il y a déjà même l'idée de la fuite du temps jusque dans sa fin, de quelque chose qu'on vient de vivre et qui déjà nous échappe.
Donc on note bien, là c'est moi qui prends mon petit papier, mon crayon, il s'appelle Vincent de Dienne.
Un soir de gala, il est jusqu'à la fin de janvier à Paris au Bout du Nord.
Alors ça c'est bouclé. C'est
alors
complet.
Il reste quelques... parce qu'il y a toujours des gens qui ont le Covid, donc il
reste
quelques places.
Oui, mais il va rejouer au Théâtre Marigny.
Et puis partout en France, en tournée, et du coup ça vaut le coup.
Et très, voilà, on va être attentif. Je ne sais pas s'il passe à Mâcon. Peut-être.
Il passe à Mâcon, sûrement.
Sûrement.
On ira.
Stéphane, on sait votre amour des beaux-arts. Et là, vous nous emmenez dans un lieu plutôt méconnu, la Fondation Custodia. Qu'est-ce que c'est?
Ah.
C'est à Paris, déjà.
Oui, c'est à Paris. C'est rue de Lille, au bout de la rue de Lille, c'est-à-dire juste à côté de l'Assemblée nationale, à côté du métro Assemblée nationale. C'est un hôtel particulier du 18e siècle qui est caché par une façade haussmannienne. Donc on rentre dans une cour et on voit ce très bel endroit. Et en fait, c'est une fondation privée puisque ça a été créé par un grand collectionneur hollandais et historien d'art qui s'appelle Fritz Lucht. Vous savez qu'en Hollande, on a des G, ça fait R, hein, donc soyons puristes. Ça s'écrit Lucht. Et il avait une collection de tableaux magnifiques qui est... Alors, pas forcément montré en ce moment, mais une grande collection de dessins, une collection de lettres d'artistes, c'est beaucoup d'œuvres sur papier. Et donc l'objet de cette fondation, c'est de conserver et puis de proposer à des chercheurs de venir travailler sur les fonds qui sont là et puis aussi de les augmenter. Et il se trouve qu'il y a quelques années, la fondation a reçu un legs de 40 esquisses à l'huile sur papier. C'est-à-dire des dessins faits sur le motif, des peintures faites sur le motif.
Ça veut dire quoi, faites sur le motif?
C'est-à-dire faites en plein air devant le paysage. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas en atelier, vous sortez avec votre palette, vos instruments, etc. Et vous peignez ce que vous avez sous les yeux. Ça ne se faisait pas tant que ça dans le passé. Ça se faisait pour préparer des œuvres qu'on allait peindre en atelier. Pour vous dire, même en 1850, vous avez très peu de tableaux qui sont vendus sur le marché et qui sont en réalité peints sur un chevalet devant les arbres ou devant le paysage qui va être présenté. Les artistes allaient faire des croquis, etc., puis ils revenaient en atelier et peignaient ça. En revanche, donc depuis 1780, il y a une habitude des peintres européens, danois, anglais, français, allemands, de se rendre en Italie et de peindre à l'huile sur papier. Et donc, à partir de ce legs qu'il a eu, il a commencé à développer une collection, à acheter. Et là, en ce moment, il y a une exposition de ses œuvres, plus d'œuvres qui viennent d'Angleterre, des États-Unis. Et c'est, je pense, une des premières expositions sur ce sujet qui est là. Et alors, c'est magnifique. Vous avez, par exemple, là, j'ai été très attentif à un petit Bonington. Bonington, c'est un des grands inventeurs de l'aquarelle, début 19e. Petite esquisse. On a l'impression que c'est un tableau impressionniste. Et évidemment, ça n'aurait jamais pu être vendu comme ça à l'époque. C'est préparatoire. C'est le lac de Garde avec le village de Descenzano et les montagnes derrière. Beaucoup d'éléments sont peints avec une seule touche. Chaque touche est un mot d'esprit. Les tons sont justes. C'est une petite merveille. Vous avez des constables sur les nuages. Vous avez des peintres de toutes les époques. Entre 1780 et 1870, attention, c'est quand même une époque assez restreinte, et c'est présenté par lieu. Donc vous avez.
On voyage.
On voyage. Vous avez Rome, vous avez Capri. Beaucoup sont allés à Capri, c'est impressionnant. Vous avez ce qui représente des arbres, vous avez les ciels, vous avez des petits morceaux de France. Et on découvre une foule de choses. Et c'est évidemment très beau.
C'est où cette fondation Custodia?
Je vous ai dit, c'est au bout de la rue de Lille, métro Assemblée nationale. Et il y a deux expos. Il y a ça à l'étage et en dessous, l'exposition sur un graveur hollandais impressionnant de virtuosité.
Voilà, allons découvrir la Fondation Custodia.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Et je crois qu'on est un petit peu en retard. Alors très rapidement, je vais vous demander vos impatiences avant de nous séparer. Quels sont les événements, les expositions, les films, les livres, les concerts que vous guettez?
Mon impatience, c'est de voir Rosie d'abord et puis dans un deuxième temps, l'exposition Akseli Gallen-Kallela, peintre finlandais au musée Jacques-Marandré à partir du mois de mars.
Ingrid, votre impatience?
Oui, alors moi, c'est un livre, Vivienne Mayer révélée, Enquête sur une femme libre, de Anne Marx. On se souvient que David nous avait parlé de la formidable exposition qui se tenait au musée du Luxembourg. Et je crois que pour les heureux bretons, Vivienne Mayer est au musée des Beaux-Arts de Quimper et de Pont-Aven. Donc, deux réjouissances.
David ?
La saison Molière à la Comédie-Française qui reprend toutes les pièces là, toute la saison et notamment pour mes lecteurs qui passent le bac de français, il y a le Malade imaginaire qui est programmé, qui est au programme du bac. Donc
en plus, c'est le moment de se séparer. Merci pour votre fidélité. Ingrid Blanchard, David Groison et Stéphane Covio étaient de la partie. Merci à eux. C'est Pierre-Henri Paget qui cette semaine était aux manettes. Merci à lui. Le point final de cette émission, c'est toujours une citation. Et à l'occasion de la nuit de la lecture, une citation de Comme un roman. Le livre de Pénac, chaque lecture est un acte de résistance, une lecture bien menée, sauve de tout, y compris de soi-même.